Après avoir parlé de l'intégrité, de la prière et de la méditation de la Bible, qui sont donc trois valeurs de notre Église et qui constituent également trois des disciplines spirituelles indispensables à notre croissance, je vous propose donc aujourd'hui d'aborder en profondeur une autre valeur, celle de disciple, devenir disciple. En effet, il est impossible de lire les évangiles, du moins à mon sens, sans remarquer que le désir de Jésus pour nos vies est que nous devenions ses disciples. Cet appel est tellement radical que l'on peut objectivement se demander si dans la pensée de notre Seigneur, il existe une différence entre le fait de se dire chrétien et d'être un disciple. Pour le dire autrement, il est difficilement défendable, Bible en main, de prétendre être chrétien sans être un disciple. Mais parler de devenir disciple, c'est aussi tenter de comprendre en quoi consiste la croissance spirituelle que l'apôtre Paul décrit à plusieurs reprises comme étant la marche sur l'Esprit Saint ou la soumission à l'Esprit Saint. Alors avant de conclure cette brève introduction, j'aimerais vous redonner la définition que nous donnons à cette notion de disciple, notion que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Église d'ailleurs. Être disciple, nous l'exprimons en disant, c'est en suivant Jésus que l'on devient son ami, parce que par définition, un disciple suit son maître, notre maître étant le Christ, nous sommes appelés à suivre Jésus, à être avec lui, à faire de lui notre priorité première. Alors pour installer le décor et donner la tonalité générale, le ton sur lequel je vais vous parler de tout ça pendant les semaines qui viennent, j'aimerais que nous prenions un premier texte dans l'Ancien Testament, ça va peut-être vous surprendre, et pourtant. Ce sont deux versets, je placerai le contexte après, vous connaissez sans doute ce récit. Saül, donc le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, fit enfiler sa tenue à David, David qui sera le second roi d'Israël, le deuxième. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Le contexte, c'est qu'Israël est, j'ai envie de dire, encore une fois en guerre contre le peuple philistin, que cela fait plusieurs jours déjà que les deux armées se font face, et entre les deux armées une plaine. Et qu'au lever du jour, tous les matins, il y a un soldat philistin qui marche vers l'armée d'Israël, et ça se faisait assez à l'époque, pour régler les conflits, pour éviter qu'il y ait trop de morts. Le champion de l'armée d'en face combattait le champion de l'autre armée, et au moins, le vainqueur, forcément, il emportait la mise, et les autres étaient soumis au peuple qui avait vaincu à travers ce conflit réduit à deux personnes. Donc ça fait plusieurs jours que tous les matins à l'aube, ce fameux champion du peuple philistin, un certain Goliath, d'après la description, il était plutôt baraqué, un homme de métier, donc un soldat de métier, vient haranguer le peuple d'Israël en disant « Envoyez-moi votre meilleur homme » et que le sort décide. Alors ce qui était intéressant, et c'est pour ça qu'on va en dégager le premier principe de croissance spirituelle pour devenir disciple, il était intéressant de noter que le meilleur homme du côté israélien, mais si le texte ne le dit pas, il faut un peu réfléchir pour deviner qui est le champion du peuple d'Israël à cette époque, au niveau militaire. Le meilleur soldat de l'armée d'Israël, c'est le roi Saül. C'est d'ailleurs parce qu'il est plus grand que les autres, plus baraqué que les autres, plus fort que les autres, qu'il a été choisi par le peuple d'Israël pour devenir le roi. Il voulait un roi qui en jette. Ils l'ont. Le seul problème, c'est que il se cache. Il ne va pas, il ne relève pas le gant pour la simple et bonne raison qu'il sait très bien qu'il n'a pas ce qu'il faut pour ça. Alors, quand j'imagine cette scène, je me dis que le soir, au feu de camp, les autres soldats de son armée doivent jacasser un maximum. Ils savent très bien que le roi est le plus grand guerrier d'Israël. Ils ne relèvent pas le défi. Saül va malgré tout miraculeusement recevoir de l'aide dans la personne donc, d'un jeune berger, adolescent, du nom de David. Ça, c'est pour le contexte. Donc, passons maintenant à ce que j'aimerais te retirer comme principe spirituel des deux versets que nous avons lus. Il y a une chose qui apparaît immédiatement à la lecture de cet épisode, c'est le contraste existant entre Saül et David. Saül est un homme, David est un ado. Le roi, je l'ai dit, est quelqu'un de grand et de fort, David est petit, on le sait par les textes bibliques, et pas très costaud, du moins à l'époque. Saül est un guerrier, il est roi, David est un berger. Saül fait du 58 de carrure et David du 42. Pourtant, c'est assez intéressant que c'est quand même celui qui fait que du 42 que Dieu va choisir. Voilà. Ça ne m'arrange pas du tout, ça, en passant. Parce que tout le monde sait bien que je fais du 58 de carrure. Y aurait-il une légère différence entre les deux ? Alors là où ça devient vraiment intéressant pour nous, c'est lorsque Saül offre à David de porter son amour dans la rue. On peut comprendre le geste, hein, il est déjà pas bien, il est le roi. Il dit, bon, ce pauvre gamin va se faire massacrer là. Donc il faut au moins que j'offre mon armure. C'est sympa, mais c'est un honneur aussi de porter l'armure du roi. Seulement voilà, ce qui aiderait vraiment Saül, parce que c'est son armure, ne va pas aider David du tout. Parce que cette armure est trop lourde, son épée est trop grande. Il flotte dedans, ça ne va pas du tout. Ça n'est pas en rapport avec ce que David est. Alors heureusement que celui-ci a déjà assez d'intelligence pour nommer le problème auquel il fait face. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Quelle chance. Le jeune berger devrait donc se débarrasser de l'armure du roi et prendre avec lui ce qui allait vraiment l'aider, à savoir, on le sait, une fronde et quelques pierres. À ce stade-là, il ne restait plus au roi qu'à aider David de la seule manière dont il pouvait encore le faire, en implorant la protection de Dieu sur le jeune homme. « Va et que le Seigneur soit avec toi. » Il y avait plutôt intérêt. La plus grande bataille dans laquelle nous sommes engagés n'a strictement rien à voir avec celle qu'a dû mener David. Il y a des jours où je regrette. Si ce n'est au niveau des principes que celle-ci nous enseigne, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Notre bataille à nous est spirituelle par essence, mais elle existe, hein, cette bataille. On n'en est pas assez conscient. Donc cette bataille se traduit par des luttes avec des pensées qui n'honorent pas Dieu, avec le ressentiment, la colère, la convoitise, la cupidité, la jalousie, l'orgueil, etc., etc., etc. Et c'est la soumission à tout cela au quotidien qui nous empêche de vivre dans le courant de l'esprit. Si on se soumet à ce genre de choses, on ne pourra pas se soumettre à l'esprit de Dieu. Et dans ce contexte, combien de fois ne nous sentons-nous pas écrasés parce que nous essayons de manier des armes pour mener cette bataille qui en ont aidé d'autres et qui en aident encore d'autres. Et c'est merveilleux, tant mieux pour eux. Ils ont leur armure, mais qui ne nous conviennent pas du tout à nous. Lorsque nous entendons que d'autres commencent, par exemple, et finissent leur journée par la prière, ils lisent leur Bible pendant 3 heures tous les jours, ça existe, hein, paraît-il, et qui louent Dieu, et qui voient Dieu, et qui sont des contemplatifs, et Amen, et Alléluia, et tout ce que vous voulez, nous sommes souvent frustrés quand on entend ça. Parce que ce qui marche pour d'autres ne marche pas pour nous. Nous sommes comme David essayant de marcher avec l'armure de Saül. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas besoin d'armure, bien sûr. Les éléments de la vie spirituelle sont communs, nous sont communs à nous tous. Mais notre armure doit être à notre taille. David, vous le savez, si vous connaissez un peu son histoire, a connu par la suite encore de nombreux combats parce qu'il va devenir un soldat. Mais dans l'intervalle, il se sera fait faire une armure à sa taille. Mes amis, si David avait été à la rencontre de son ennemi ce jour-là, quand il était adolescent, en portant l'armure de son roi, il aurait été vaincu. Ça, on peut en être sûr. C'est la grande leçon de cette histoire. L'autre leçon, c'est que Dieu savait ce dont Saül avait besoin, et il savait aussi ce dont David avait besoin. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin, chacun d'entre nous. Et on va prendre, là, dans le Nouveau Testament, un verset. Je suis gentil avec vous, hein, un verset, c'est pas beaucoup. Hein. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ben pour David, ce combat avec Goliath, c'était une de ses œuvres que Dieu avait préparée pour David de toute éternité. Et il avait donné à David la capacité de remporter cette épreuve. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il ne dit pas que nous sommes ses appareils, ses choses, ses machins, mais bien son chef-d'œuvre, en quelque sorte. Le terme en grec est même plus fort que ça, puisque le terme grec dans ce passage, c'est « poema ». C'est traduit, ne me demandez pas pourquoi, hein. Peut-être parce que c'est trop poétique. C'est traduit par « bonnes œuvres ». En fait, le grec dit que nous sommes son poème. Alors, je ne suis pas un spécialiste en poésie, mais ce que je sais avec certitude, c'est qu'un poète n'écrit jamais deux fois le même poème. Nous sommes tous des poèmes, certains plus beaux que d'autres, sans doute, plus longs, plus majestueux, sans doute, hein. Mais nous sommes tous différents. Nous n'avons pas été fabriqués à la chaîne, Dieu n'est pas un staccanoviste, hein, pour ceux qui ont des références économiques, Alors Henry Ford, il n'a pas commencé à installer des chaînes de montage pour nous dupliquer à l'infini. Dieu ne nous a pas fait parfaitement identiques à quelqu'un d'autre. Nous sommes tous différents. C'est pour cette raison que son plan de modelage de votre petite personne ne ressemblera pas à celui pour modeler votre voisin. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Ce qui signifie en pratique que si vous essayez de suivre un plan global et général applicable à tout le monde pour grandir spirituellement, vous apprêtez à des périodes de grande frustration. Vraiment. Paul, toujours lui, a écrit dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, en Grèce, la voilà. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est grand temps de choisir la liberté. Il est temps de nous arrêter de tourner en rond dans l'armure de Saül. Il est tout simplement temps de devenir libre. Alors, je sais bien que dans de très nombreux milieux d'église, et on peut tout à fait historiquement développer pourquoi, on continue d'affirmer qu'une même certaine méthode produit la même croissance chez des personnes différentes. On continue à le marteler, ça. Dans mon expérience personnelle, donc moi, personnellement, dans ma marche avec Dieu et au niveau pastoral, quand j'essaie d'aider les autres à marcher avec Dieu, ce modèle-là, général, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'en vous créant, Dieu a choisi de vous rendre unique. C'est son choix, il faut le respecter. Ce qui signifie que son plan pour vous faire grandir ne ressemblera pas au plan pour faire grandir quelqu'un d'autre. Il y aura parfois des points communs, forcément, mais ce sera différent quand même. Votre personnalité est unique et votre histoire aussi. Aucun d'entre nous ici dans cette salle n'a la même histoire, si on est d'accord. Pour imaginer mon propos, je dirais que ce qui va faire grandir une orchidée aura toutes les chances de faire mourir un cactus, ou inversement. Que ce qui nourrira une souris fera mourir de faim un éléphant. Toutes ces entités créées, elles aussi par Dieu, que je viens de citer, ont besoin de lumière, de nourriture, d'air et d'eau. Ça sera commun, mais dans des proportions et des conditions différentes. Spirituellement, nous avons tous les mêmes besoins essentiels. Méditer la parole de Dieu, prier, faire silence, etc. Combattre notre nature propre. Autrement dit, devenir intime avec Dieu. Mais comme nous sommes tous différents, la façon de le faire et de le vivre sera différente. Soit donc clair d'emblée, pour ne pas être mal compris, nos différences ne sont pas des excuses pour ne rien faire du tout. Quand il n'y a pas de mode d'emploi généralisé, ça veut dire qu'on doit tous chercher notre chemin. Ça demande de l'implication. Hein. Et parfois, quand on demande de l'implication, de l'engagement, on se dit « Oh, moi, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, je suis fatigué. » Et on ne le fait pas, donc on ne trouve jamais son chemin. Ça, c'est du domaine de notre responsabilité. Les éléments seront donc communs dans ce chemin, mais nous serons tous et nous sommes tous différents. Donc sans air, sans eau, sans lumière, la plante meurt, l'animal meurt, nous mourons aussi. Et sans prière, sans renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, nous sommes morts également, spirituellement sans temps. Okay ? La clé ne consiste donc pas à traiter chaque créature de la même manière, mais à trouver les conditions uniques qui vont aider chaque créature à grandir. Réfléchissant à ça, bon, parce que j'ai un médecin généraliste comme tout le monde, imaginez votre médecin. Ou un médecin plutôt qui dirait à chacun de ses patients, prenez 2 dafalgan et appelez-moi demain dans la matinée. Okay? Alors, si vous avez mal de tête, ça peut le faire, quoi, sans doute. Hein. Si vous êtes au bord de la péritonite, ça ne le fera pas. Nous sommes d'accord? Nous sommes bientôt au mois de juillet. Ah, c'est quoi le mois de juillet? Non, c'est les soldes, vous êtes nuls. Maintenant, imaginez un magasin où il n'y aurait qu'un style de vêtements d'une seule couleur. Pareil qu'en Corée du Nord, c'est comme ça. Et disponible uniquement en une seule taille. Je ne pense pas que vous iriez. Et même si vous vouliez vous y rendre, vous ne pourriez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce genre de magasin n'existe pas. Parce que Dieu a créé l'homme selon des tailles différentes. Ça ne vous aura pas échappé, me semble-t-il. Si on passe du domaine ici un peu anecdotique à celui, par exemple, de parents, imaginez quelle serait notre réaction si de futurs parents se disaient « Peu importe combien d'enfants j'aurai, ça, c'est pas raisonnable de se dire ça quand même, parce qu'entre 1 et 4, il y a une grosse différence. Hein. Je les traiterai tous exactement de la même manière. Pour moi, chaque enfant sera une page blanche sur laquelle j'écrirai une pâte à modeler. Ils seront tous stimulés et motivés par les mêmes récompenses, impactés de la même manière par les mêmes punitions et attirés par les mêmes activités. » J'aimerais dire que ces paroles-là n'existent pas. Ils existent. Et ils vont devant de graves déceptions aussi, et les gosses avec. Si nous voulons aider quelqu'un à grandir spirituellement, nous allons devoir aider cette personne d'une façon qui s'adapte à son câblage, je vais appeler ça comme ça, d'origine, la façon dont il fonctionne. J'ai fait un petit récapitulatif. Dieu, vous le savez, a donné à Moïse une promenade de 40 ans dans le désert, à David une harpe, un sceptre, il était roi, et la danse, parce qu'il adorait danser, à Paul un stylo ou un calame à l'époque, et un parchemin. Dieu s'est battu avec Jacob, il a argumenté avec Job, il a chuchoté à l'oreille d'Élie, il a averti Caïn et il a réconforté Agar. Il a donné à Aaron un autel, à Myriam une chanson, à Pierre un nom et à Élisée un manteau. Jésus, vous le savez, a été sévère avec le jeune homme riche, tendre avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, patient avec ses disciples, il a été dur avec les scribes, gentil avec les enfants et plein de miséricorde avec le bandit crucifié avec lui. Dieu ne fait jamais grandir deux personnes de la même manière. Dieu est un artisan, pas un capitaliste productiviste. Je le redis. Et à présent, c'est votre tour. D'après ce que Paul nous a dit en Éphésiens, Dieu a un plan pour celui ou celle qu'il souhaite que vous deveniez. Ça ne ressemblera jamais exactement au plan qu'il a pour quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que ça va me demander de la liberté, mais aussi de la recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, afin d'apprendre comment Dieu désire me faire grandir, il va me falloir de l'investissement. En réfléchissant à ça, j'ai pris un exemple que j'ai pris dans un autre message il y a bien longtemps, je pense, et que j'ai essayé personnellement aussi, spirituellement parlant. Prenez par exemple le fait de tenir un journal, le fait d'écrire vos prières, d'écrire vos pensées par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, etc. Posez la question à de nombreuses personnes autour de vous et vous verrez que très peu d'entre elles en tiennent un de journal. Si vous en tenez un et qu'il vous y marquez vos prières, vos interrogations, vos questions, votre ressenti, et que cela vous aide à grandir dans votre relation à Dieu, tant mieux, c'est super. Mais il ne faudra pas l'imposer à votre voisin. Cela conviendra peut-être à certains autres, mais vous ne pourrez pas l'imposer comme un chemin universel, indispensable pour grandir spirituellement et devenir disciple, parce que ça ne marchera pas. Vous allez créer de la distorsion et de la pression et de la culpabilité. Prenez par exemple C.S. Lewis, vous commencez à connaître, hein, le grand écrivain apologète chrétien anglais. Il avait l'habitude, dit-il, de tenir un journal avant sa conversion. Il était prof à Oxford. Hein. Il tenait un journal, voilà. Comme une fille adolescente. Eh bien, figurez-vous qu'il a arrêté d'en tenir un juste après sa conversion. Du jour au lendemain, il a arrêté de tenir un journal, car il estimait que ça le faisait trop se focaliser sur lui-même. C'était moi, 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 moi. Il s'est dit, ça ne marche pas, parce qu'il vaudrait mieux que je fasse rentrer plus de Dieu dans ma vie plutôt que plus de moi dans ma vie. Il a arrêté de tenir un journal. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de le faire. Ça m'est arrivé parfois d'en tenir, ça m'arrive encore, à certains moments. Parce que, par exemple, à titre personnel, écrire mes pensées m'aide parfois à briser une spirale de pensées négatives. Ça m'aide de réobjectiver les choses en les écrivant. Mais comme par nature, je ne suis pas quelqu'un de persistant, il y a certaines pratiques qui m'aident, mais qui sont en dents de scie, parce que je suis comme ça. Alors, je ne dis pas que je ne travaille pas pour ne plus être comme ça. En attendant, je suis quelqu'un de plutôt spontané dans mon approche des choses. Donc moi, je n'ai pas dit « je vais nettoyer le lundi, je vais faire les carreaux le mardi, tac, tac. » Je vais parfois rentrer tout ça dans la semaine, mais sans le programmer, parce que je suis comme ça. Si je commence à établir les choses de manière ordonnée et systématique, je ne ferai rien du tout. Voilà. Donc ma petite femme est merveilleusement inspirée quand elle ne me met pas la pression à ce niveau-là, parce que sinon, je ne fais rien. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et c'est valable dans le domaine spirituel aussi. Donc il va falloir aussi, n'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit, hein, une dimension de la relation avec Dieu, c'est d'apprendre à se connaître, parce qu'on ne se connaît pas. Les disciples de Jésus sont faits à la main, si je peux dire, pas à la chaîne. Pas étonnant dès lors que parfois nous nous décourageons de ce que nous serions tous supposés ressembler au pasteur. Je comprends, hein, c'est dur, hein. À l'auteur d'un livre, etc., sous prétexte qu'il parle de la croissance spirituelle. Je vous en parle, hein. C'est pas pour ça que je suis un spécialiste, hein. C'est mon rôle d'en parler. Bon, avec le temps, c'est peut-être aussi un peu mon rôle de l'incarner, mais n'étant pas parfait, vous aurez remarqué. Cela irait aussi déjà beaucoup mieux si les responsables d'église apprenez à ne plus se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des gens parfaits. Nous apprenons différemment, nous luttons avec des péchés différents, parfois les mêmes, mais c'est intéressant d'en parler quand on a le même, hein, ou les mêmes. Et nous sommes en relation avec Dieu de différentes manières. On va prendre un autre texte dans l'évangile de Jean. On va faire le tour aujourd'hui. Hein. Voilà ce que dit Jésus à son Père. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » C'est nous ! Merveilleux. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. » C'est pas évident quand même. Hein. « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc c'est quand même intéressant de noter au passage que la seule manière pour le monde de croire que Dieu existe, c'est qu'il le voit en nous. Donc Jésus n'a pas demandé à son Père, fais en sorte qu'ils aient tous les mêmes pratiques de dévotion. La même façon de t'adorer, Père, de te connaître, d'être intime avec toi. Il a bien demandé, mais qu'ils soient un. Donc la véritable, c'est important de comprendre ça, la véritable mesure de votre vie avec Dieu n'est pas votre pratique spirituelle. C'est votre vie, toute votre vie. Quand vous mangez vos Kellogg's le matin, ça doit devenir un acte spirituel. Et si vous n'aimez pas les Kellogg's, peut-être qu'il faudra commencer à en acheter pour vous forcer. Parce que ça fait peut-être partie de votre chemin spirituel. C'est notre vie, toute notre vie. Rappelez-vous Romains 12, hein. Offrez vos cœurs en sacrifice vivant. Ce n'est pas un morceau de notre vie quand ça nous arrange. Il faut prier, bien entendu, par exemple, passer du temps avec Dieu dans la prière. Mais votre réalité spirituelle ne va pas se limiter à ça. Si vous découpez, si vous séquencez votre vie par petits morceaux en disant « cette tranche-là, c'est pour Dieu, le reste, je fais ce que je veux », ça va être une catastrophe. Toute votre vie doit être consacrée. Votre pratique spirituelle, je ne la vois pas, moi. Quoique... Je ne suis pas présent lorsque vous priez. Rassurez-vous, hein, je ne suis pas là. Hein. Et lorsque vous lisez la Bible, je ne suis pas là. Je ne sais pas comment vous priez, ce que vous dites ou pas. Si vous lisez l'Ancien ou le Nouveau Testament, ou les deux, j'en sais rien. Ce que je sais de vous, c'est ce que je vois de vos attitudes et ce que j'entends de votre bouche. Ça, je le sais. C'est votre vie qui manifeste votre vie avec Dieu, votre vie spirituelle. Et c'est vrai que malgré toutes nos difficultés, nos imperfections à chacun, je sais qui a une pratique spirituelle ou pas. Parce que votre vie me le dit. Donc je le sais. Si vous passez du temps avec Dieu ou pas, je le sais. C'est dans les deux sens. Hein. Ça va dans l'autre sens aussi par rapport à moi. Hein. C'est donc votre vie qui parle. Et cette vie est spirituelle ou pas, conduite par l'Esprit Saint ou pas. Voilà. C'est simple hein, quand même, la théologie. Hein. A contrario, ça va peut-être vous faire peur, mais ça existe, hein, on en a un peu parlé il y a quelques semaines. Je connais des gens qui ont depuis des années une pratique spirituelle très stricte, qui s'y tiennent. Ils prient tous les jours aux mêmes heures, ils s'astreignent à lire la Bible en entier tous les ans. Ils ne ratent aucun culte, c'est bien, c'est un, enfin soit, aucune autre rencontre. Ils sont à la grande prière, ils sont à toutes les études bibliques. Ils font des listes de noms pour lesquels ils prient. Et c'est très bien, hein, on ne va pas dire que c'est pas bien. Mais lorsqu'on les regarde vivre et interagir avec les autres, on a du mal à croire qu'ils puissent avoir une relation avec Dieu. Ça paraît quand même paradoxal. Hein ? Sur l'autre côté du spectre, on en a certains qui pensent que leur vie spirituelle se limite au temps de prière ou de culte. J'y faisais allusion tout à l'heure. Je ne citerai pas de nom. En dehors de ces moments, leur vie leur appartient et ils en font ce qu'ils veulent. Avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut parfois occasionner, et aussi les mauvais choix auxquels cela mène irrémédiablement. Car les espaces de ma vie qui ne sont pas accessibles à Dieu, si on ne laisse pas accéder à certains espaces de nos vies, ces espaces seront autant de zones fragiles et sensibles dans lesquelles je finirai par avoir des problèmes. C'est comme ça que ça marche. Donc, ces deux types de personnalités ou de personnes que je viens d'évoquer pourraient être qualifiées de beaucoup d'adjectifs, ça c'est sûr, hein, ceux qui sont à fond dans leur lecture et dans des pratiques spirituelles rigides, mais qui ne transforment rien en eux, où l'esprit ne prend pas de place, et puis ceux qui, à la limite, ne font pas grand-chose, ou séquencent leur vie, saucissonnent leur vie. On pourrait placer des étiquettes sur ces deux catégories de personnes, on ne le fera pas, ce n'est pas le but, mais en tout cas, une étiquette qu'on mettra sur aucun des deux groupes, c'est celle de disciples. Parce qu'un disciple, ça se reconnaît. C'est ça le drame de Pierre quand cette servante, au moment de l'arrestation de Jésus, le soir auprès du feu, dit « Est-ce que tu n'es pas un de ses disciples ?» Elle l'a reconnu, à cause de son accent surtout. Il avait l'accent de Mons, du Borinage. Pour situer les Galiléens, c'était ça. C'était vraiment les bas de plafond. Hein. Voilà. Non, mais vraiment, hein. Non, mais c'est vrai. Tous les autres juifs les prenaient pour des tarés. Hein. Et c'est pourtant ceux-là que Jésus a choisi. Niveau recrutement, DRH, c'est pas... Voilà. Lorsqu'on nous pose la question, soyons pratiques, comment... Bon, c'est rare qu'ici on se la pose, parce que s'il y a un d'entre vous qui commence à poser cette question à l'église, je vais le prendre à part dans la cuisine. Mais enfin, il y a des églises, ça marche comme ça. Comment va ta vie spirituelle? Hein? Le reste, ils s'en foutent, mais comment va ta vie spirituelle? Quand on pose cette question, on pense immédiatement en termes de « Est-ce que j'ai lu ma Bible et prié suffisamment aujourd'hui? Est-ce que ça se voit que ça fait 3 jours que je ne la lis plus, quoi? » Ça se voit tellement que ça, si on pose la question. Je vais vite rentrer après le culte et je vais rattraper les 10 chapitres de retard de cette semaine. Comme ça, ça ne se verra plus que je n'ai pas lu ma Bible pendant 3 jours. Mais c'est horrible, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, dans beaucoup d'endroits. Le problème, mes amis, c'est qu'en mesurant avec ces mesures-là, ce sont toujours les pharisiens qui gagnent à la fin, et avec eux l'orgueil et le jugement. Alors comment je fais pour mesurer ma croissance spirituelle sans me servir des mesures des pharisiens? On a un jour posé la question à un homme sage, pas moi, hein, parce que je sais bien que parfois je... Non, c'est pas moi. Et il a répondu ceci. En fait, je me pose, pour savoir où j'en suis spirituel, je me pose 2 questions. La première, est-ce que je suis plus facilement découragé ces derniers temps? La vie spirituelle, c'est pratique, hein. C'est pas de la théorie. 2e question, on a de la chance, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 2. Est-ce que je suis plus facilement irritable ces derniers temps? C'est la question que ce pasteur, américain d'origine suédoise, ça aide. Hein. Ce sont ces 2 questions que ce pasteur se pose régulièrement pour, au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de son impact quand il prêche, au-delà de toutes les conférences qu'il est appelé à prêcher, au-delà de « Oh, monsieur le pasteur, c'était merveilleux ce que vous avez dit », au-delà de tout ça, parce que ça ne dit rien sur sa vie spirituelle, il s'astreint à se poser ces 2 questions régulièrement. Pourquoi il se pose ces 2 questions? Et je le cite. Il dit « Au cœur même d'une âme, c'est joli, hein, au cœur même d'une âme qui fleurit, hein, il y a l'amour et la paix de Dieu. Ce sont 2 éléments indispensables à la croissance, l'amour et la paix. Et il dit « Si la paix grandit en moi, je suis moins facilement découragé. Si l'amour grandit en moi, je suis moins facilement irrité. » Vous êtes irrité à un problème d'amour. Le réservoir se vide. Vous êtes découragé, hein, peut-être un petit problème de paix. La question qu'il faut se poser, on peut essayer de faire ça, hein, je trouve ça sympa de lui piquer le truc, il n'y a pas de copyright, vous pouvez profiter. Hein. Ça, vous pouvez franchement l'embarquer chez vous et fonctionner par rapport à ça. Mais forcément, ce qui est intéressant, c'est comment je réponds à ces 2 questions-là, à titre personnel. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est Hybels qui expliquait ça, c'est, il prenait l'image d'un seau, vous voyez un seau, glou-glou, un seau. Il y a des moments, par la grâce de Dieu, et parce qu'on est sur le bon chemin avec lui, etc., et puisqu'il bénit, enfin tout ce que vous voulez, on va passer les détails, votre seau à un moment est rempli. Ça se passe bien dans votre vie avec Dieu. Le seau est rempli. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le seau se vide. Il y a des trous dans le seau. Et tant qu'on sera ici-bas, il y aura des trous dans le seau. Donc, ça va fuiter. Alors, parfois, il y a des trous comme ça. Ça va être très vite, vite. Et puis, à d'autres moments, c'est vraiment des petites fissures. Et ça va mettre du temps, mais le niveau va baisser. On doit en permanence remplir notre seau pour être en paix et pour être rempli de l'amour de Dieu. Donc, tenter de grandir spirituellement sans tenir compte de qui vous êtes, de comment vous allez à un certain moment, comme si nous étions tous pareils, comme si rien ne faisait de différence, comme si le monde, nos situations personnelles de famille et autres ne nous impactent jamais, ça n'est pas raisonnable et ça n'a rien à voir avec l'enseignement biblique au sujet de la croissance spirituelle. Penser que nous sommes tous pareils, cela revient à essayer d'élever des enfants sur une ligne de production. Ça ne marche pas. J'essaie avec ma fille. J'ai vite laissé tomber. Elle est unique. Croyez-moi, si vous entraînez une gymnaste de 40 kilos et un pilier de rugby de 140 de la même manière, en fait, vous allez vous retrouver avec deux personnes de 90 kilos. Totalement inutilisables. Une gymnaste spécialiste de la poutre de 40 kilos, ça ne mange déjà pas spécialement ce que mange un pilier de rugby de 140 ou un sumoriste de 200. Le fait est que seul Dieu peut faire grandir à travers nos pratiques spirituelles, bien sûr, et à travers notre vie. Mais c'est Dieu qui fait grandir. Alors que dois-je savoir sur la façon dont Dieu veut m'aider à grandir? La plupart des gens, lorsqu'on leur pose cette question, voient apparaître dans leur esprit un nombre très restreint d'activités qui peuvent être évoquées comme suit. Je devrais faire ceci ou ça, mais je ne le fais pas aussi souvent que je devrais. Donc je me sens coupable, donc je le fais encore moins, et c'est une catastrophe. Et puis j'en parle à quelqu'un, un frère, une sœur, qui a aussi mal que moi, un peu moins mal que moi à ce moment-là, et qui me dit, c'est quand même pas bien ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas. Mon chien a un cancer, dit ta Bible. Lis ta Bible, ça ira mieux. Regardez le chien, je ne suis pas sûr, mais bon, voilà. On pourrait aussi poser la question autrement, sans même évoquer la dimension spirituelle. Quelle chose ou quelle activité vous font sentir pleinement vivant? Je pense qu'on aspire tous à se sentir pleinement vivant, surtout les chrétiens. Normalement, on a l'Esprit de Dieu, vous vous rendez compte? C'est super, oui, mais quand il n'y a pas une trace dans nos vies, on a un problème, on est malheureux par rapport à ça. Alors peut-être que vous vous sentez particulièrement vivant quand vous vous promenez dans la forêt. Où? Voilà. Il ne faut pas faire. Hein. Peut-être est-ce que lorsque vous lisez et vous savourez des pensées profondes exprimées dans un livre que personne ne comprend à part vous. Et dont la femme de celui qui lit dit tout le temps, tous les jours, à toutes les heures, tu es un cinglé, tout le monde s'en fout de ce que tu lis. Peut-être est-ce en riant avec de vieux amis. Voilà. Mais non, mais ça fait partie de la vie spirituelle aussi. Hein. C'est Dieu qui a inventé l'amitié. Hein. C'est de l'amour, l'amitié. Hein. Peut-être est-ce jouer d'un instrument de musique, pas de menace. Parce que dans les églises. Ou regarder un bon film, pas tous les films. J'ai la liste, là, pas tous les films. Donc, si je dis ça, hein, c'est pour que vous compreniez qu'une discipline spirituelle est simplement une activité dans laquelle vous vous engagez afin d'être rendu plus vivant par l'Esprit Saint, qui est un esprit de vie, hein. Donc, il n'y a rien qui va. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire le poirier tout le temps, parce que ça, c'est pas, ça, on ne va pas y croire non plus. Hein. Puis, ça fait mal au bras. Alors, cela n'a bien entendu rien à voir avec le fait de faire n'importe quoi au moment où on le sent. Hein, je sais bien comment on est parfois tenté de penser. Donc, trop d'alcool, on va être clair, ou trop de nourriture, ou une activité sexuelle compulsive peuvent sembler une bonne chose sur le moment, parce que ça lisait un certain plaisir, mais nous ne mènent en aucun cas sur le chemin de la vie, par exemple. Ça mène parfois au mieux à la culpabilité, à l'addiction ou à beaucoup de regrets. Donc, les choses qui nous ouvrent le plus à la vie ne sont pas non plus simplement celles qui nous sont agréables. Ça, il faut quand même comprendre. Mais la vie spirituelle, ça ne peut pas être désagréable non plus. Hein. Il va encore falloir que je lise ma Bible. Il est 10h30 et je n'ai pas encore lu ma Bible. Oh là 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 là. Il faut encore que je prie, mais quelle catastrophe. Quoi. Donner de l'argent ou confesser ses péchés sont des choses qui peuvent faire peur sur le moment. Mais c'est la même chose qu'une bonne montagne russe. Hein. C'est certainement une des expériences sous laquelle nous nous sentons le plus vivants. Moi, je déteste ça. Vous savez pourquoi je déteste les montagnes russes? Parce que je ne suis pas bien. Et j'ai un jour un pote qui lui adore ça. Il y a des années, qui m'a dit, tu n'es pas bien dans les montagnes russes ou dans les moulins à sensation pour une seule raison, c'est que tu ne cries pas. Il faut crier pour dégager l'estomac et alors tu vas profiter. Moi, crier? Moi, montrer que j'ai peur? Vous êtes fous, quoi. Donc, je ne vais pas dans les... Enfin, si, j'y étais. Maintenant, c'est mon dos, je ne peux plus. Avec mon dos, je ne peux plus. Donc, si je prends la montagne russe, c'est parce qu'il y a des sensations sur la montagne russe. Donc, la vie spirituelle, c'est un peu ça aussi. Donc, il y a des choses que Dieu demande de faire. On va avoir du mal à le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était bénéfique et qu'il bénit. Et on découvre une facette de Dieu qu'on ne connaissait qu'en théorie. C'est pour ça que la foi est nécessaire. Tant qu'on ne fait pas des pas de confiance envers Dieu, on ne le voit pas agir. C'est pour ça que la foi est indispensable. Et que la Bible dit que sans la foi, sans la confiance, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que c'est tout ce qu'il demande, et rien d'autre. Hein. Fais-moi confiance, fais ce que je te demande. Quoi. Donc, nous évaluons trop souvent notre spiritualité au regard des efforts que nous menons pour accomplir tout ce que nous avons mis sur notre liste dans la rubrique. Voilà ce qui compte, voilà ce que je dois faire. Et c'est une horreur, quoi. Non. Alors, si vous me dites tout ça, ça ne vous concerne pas, ben, oh, c'est merveilleux. Hein, on va gagner 12 ans quoi, d'enseignement, surtout moi. Donc, travaillez avec joie. Travaillez avec joie. Si, si. Rappelez, la joie, c'est une discipline spirituelle. Hein. Donnez généreusement. Écoutez quelqu'un patiemment. Mangez avec reconnaissance. Lire paisiblement. Jouer, tout ça, ça compte. Mais ça compte vraiment. Chaque moment est une chance de vivre dans le courant de l'esprit. Chaque moment de vos vies, chaque seconde de vos vies. Vos vies, c'est tout ce que vous avez pour vivre dans la présence de Dieu. C'est tout ce que vous avez. Vous n'avez rien d'autre, à ma connaissance. Donc on vous dit, oh, on va voir mes parents. Youpi! Yves, tu dois aller voir tes parents. Youpi! Mais vraiment, je suis content. Ben, c'est vrai, je me suis positionné comme ça. Ça se passe beaucoup mieux pour eux. Aucune relation ne peut durer, c'est important, ça, vraiment. Si vous reconnaissez un truc de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ça. Aucune relation ne peut durer si elle est construite uniquement sur des « je dois » ou « je devrais ». Même la relation que j'entretiens avec mon dentiste ne devrait pas reposer là-dessus. Ma femme, ma fille, même mon chien, si j'en avais un, n'aimerait pas que je sois avec eux seulement parce que je pense que je dois l'être. Parce qu'ils m'aiment, ils me laissent libre et au sein de cette liberté, le désir grandit. Bon, je vais t'embrasser, ma chérie, mais ce que je dois, quoi. Mais avec Dieu, c'est un peu là qu'on est, quoi, quand même. Bon, Seigneur, je vais passer du temps avec toi, mais... Ça me pèse, je te le jure, tu n'en rends pas compte. Donne-moi des bons points sur ce coup-là, parce que... De même, là où est l'esprit, dit Paul, là est la liberté. Ça va peut-être sembler étrange, mais lorsque je pense que Dieu m'offre la liberté de me libérer de tous ces « de vrai » et de tous ces « de je dois », mon admiration pour lui grandit. Et moi, j'ai envie d'être proche d'un Dieu pareil, d'un Père pareil, qui n'a pas envie de « il faut, quoi ». Rappelez-vous, une croissance spirituelle durable apparaît lorsque je désire faire ce que je devrais faire. Dès que je désire faire, au début ça va être sporadique, et pas envie, j'ai plus envie, voilà. Ben oui, ça, on est comme ça. Mais à un moment, on va finir par être dans cette bulle, si je peux dire, intérieure, où on va vraiment avoir envie de Dieu, en fait. Je sais pas le dire autrement. Vous avez un mois. Parce qu'il faut qu'on avance. Non, je plaisante. Donc, oui, une croix aussi. Oui, tu me connais, toi. Une croissance spirituelle durable apparaît lorsque je désire faire ce que je devrais faire. Je vous laisse ça pour cette semaine. On continuera la semaine prochaine, si vous voulez bien. S'il n'y a plus personne dimanche prochain, je vais changer de sujet. Non, parce que je dois le faire. Je dois le dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.